Ben voilà, on en parle depuis le début de l'émission parce que c'est quand même un événement planétaire, c'est un événement d'une grande importance. On va savoir tantôt, j'attends les chiffres pour les codes d'écoute de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, là, cette cérémonie qui a eu lieu le 26 juillet en après-midi chez nous, mais en soirée là-bas. Donc, un événement planétaire et on a toujours cette espèce de petit frisson, ce petit sentiment quand on parle des Jeux olympiques. Tu sais, c'est un bel événement mondial, c'est beau, c'est le sport, c'est la gloire. Et on parle de Pierre de Coubertin. Il y a même une rue ici à Montréal qui s'appelle Pierre de Coubertin. Et j'ai eu l'occasion de lire un livre pendant mes vacances, Pierre de Coubertin, et j'ai même pendant mes vacances écrit à la personne relationniste de presse. Je dis, il faut absolument qu'on reçoive l'auteur de ce livre. Donc, Pierre de Coubertin, l'homme qui n'inventa pas les Jeux olympiques. Il s'appelle Émeric Mantoux. On le rejoint en France. Bonjour, Monsieur Mantoux.
Bonjour.
Alors, je parlais de cette lecture que j'ai faite. C'est un livre quand même qui déconstruit certaines idées préconçues. Allons-y. Parlez-nous un peu de ce livre. Pourquoi vous avez écrit ce livre? Et c'est une enquête quand même assez exhaustive que vous avez faite pour ce livre.
D'abord, merci beaucoup de votre intérêt. Je suis ravi que nos amis au Québec, dont je me sens assez proche, s'intéressent à ce livre. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que le monde entier s'intéresse à Pierre de Coubertin, voire le connaît, et en France, assez peu. Et donc, il y a 4 ans, j'ai voulu savoir pourquoi. Je me suis rendu à Lausanne, au musée olympique, où il y a une salle avec une grande peinture, avec ce monsieur très chic, 1900, avec sa moustache. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux, ce qu'il écrit ou ce qu'il a l'air d'avoir écrit, ce qu'il a écrit plus de 15 000 pages pendant toute sa vie sur le sport, la pédagogie du sport et la création des Jeux Olympiques, me semble très différent de l'esprit olympique d'aujourd'hui, de ce côté inclusif, ensemble. Et effectivement, j'ai découvert qu'il y avait un monde entre la recréation des Jeux Olympiques en 1896 à Athènes par Pierre de Coubertin et l'esprit qui souffle sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous l'avez dit précédemment dans votre émission, la cérémonie d'ouverture, il y a eu quelque chose de festif, d'un peu queer, d'un peu... Voilà, et tout ça n'a quand même pas grand-chose à voir avec les idées très conservatrices de Pierre de Coubertin.
Ouais, en fait, moi, j'ai été. Je pense que je vais y aller avec ce qui a retenu mon attention. D'abord, j'ai été déçu de savoir que cet homme-là n'avait peut-être pas les idées, comme on vient de dire, d'ouverture. D'abord, il n'avait pas beaucoup une opinion très élevée des femmes, notamment des femmes athlètes, alors que Paris vient d'annoncer que c'est la première fois de l'histoire qu'il y a une parité entre hommes et femmes chez les athlètes. Je trouve intéressant de tracer le parallèle. Ce personnage-là n'est peut-être pas aussi. Comment je pourrais dire, humaniste qu'on pense qu'il l'a été, là.
Alors, justement, c'est tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est la raison pour laquelle moi je me suis intéressé à ce personnage. C'est que ce n'est pas du tout un humaniste. Il s'intéresse à lui, il s'intéresse à ses amis, il s'intéresse à ses intérêts qui sont de organiser les Jeux Olympiques à Paris, notamment en 1900, puis en 1924, mais pas du tout d'y inclure les femmes. Il était très misogyne, il détestait les femmes globalement. Il voulait surtout pas qu'elle participe aux épreuves. Faut voir que Pierre de Coubertin, c'est un aristocrate. Il est blanc, il est catholique et il fait partie à l'époque de la majorité au pouvoir partout en Europe, dans le monde occidental, dans toutes les institutions internationales, qu'elles soient politiques, culturelles, intellectuelles ou sportives. Et donc, il défend les siens. Le CIO, au départ, c'est un club autour de Pierre de Coubertin avec ses amis. Ils sont tous aristocrates. Blanc, du même âge, il y en a à peu près aucun qui est sportif, vraiment. Et donc, ce sont ses amis qui se réunissent et qui décident qu'on va aller dans tel endroit, telle ville, qu'on va fixer telle règle, etc. Mais Pierre de Coubertin, il n'aimait pas non plus que des pays ressortissants des anciennes colonies participent. Voilà, il aimait les gens comme lui.
Ouais, en fait, même il n'y avait pas très, très d'ouverture. Vous avez les personnes de couleur. Alors ça aussi, on voyait que c'était pas des personnes qu'il aimait voir aux Jeux olympiques. Mais je vais quand même vous amener aussi à parler de Pierre de Coubertin qui avait des accointances, et je vais bien prendre ce mot-là, des accointances avec les nazis.
Tout à fait. C'est pour ça que je vous dis que ce n'était pas forcément un personnage aussi recommandable qu'on le croit, et qu'en tout cas, ce supposé humanisme des Jeux Olympiques est une fable. c'est une fable pour faire en sorte que tout le monde y croit et que l'événement suscite de l'intérêt. Mais Pierre de Coubertin, il a fait quelque chose de terrible. Il a introduit la politique au sein du CIO très tôt et il a donné la main à un certain nombre d'autocrates, dont Adolf Hitler, effectivement, à qui il a donné, comme on remet les clés d'une ville au Moyen-Âge, il a donné les clés pour que l'Allemagne nazie puisse organiser les Jeux de Berlin 1936. Et il y a une lettre, notamment, que je cite dans mon livre, que j'ai retrouvée, qui était inédite, et qui remercie, c'est Pierre de Coubertin qui remercie Hitler en 1937, donc un an après les Jeux. Donc il a eu le temps de voir tout ce qui a été écrit, il a eu le temps de lire tous les commentaires qui ont été écrits sur les Jeux de Berlin. Et lui, il dit, oh, c'était formidable, c'était les meilleurs Jeux olympiques qu'on ait jamais fait. Et pour lui, l'idéologie nazie de parachèvement de l'être humain par le sport, le développement de la philosophie, par le corps, le sport, et tout ça est extrêmement intéressant et il trouve ça formidable.
Mais parlons aussi du CIO après le départ de M. de Coubertin. Le CIO n'est pas une organisation sans tâches non plus. Rappelons-nous qu'ils ont envoyé des Jeux olympiques dans des pays avec des politiques assez discutables sur les droits humains. On peut parler de la Russie, par exemple, et qu'il y a quand même des accointances entre la Russie et plusieurs là, des leaders du CIO.
Oui, le CIO a toujours été une organisation très, très obscure. Je vous l'ai dit, c'est un club d'amis au départ. Donc, ce n'est pas du tout une organisation démocratique. Le CIO, on est coopté. Donc, il faut être dans la ligne du parti. Et effectivement, la ligne du parti, elle a toujours été globalement très à droite. Il faut voir que plusieurs dirigeants du CIO, notamment celui qui a succédé, Henri Bayet de la Tour, à Pierre de Coubertin, qui est le président du CIO en titre en 1936, puisque Coubertin a rendu les clés du CIO quelques années plus tôt à cet ami proche, dont la tombe sera décorée par Hitler, par des officiers SS en uniforme, avec une couronne de fleurs offerte par le Führer lui-même pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque Bayet Latour, il meurt quelques années après Coubertin, qui lui meurt en 37, et par la suite, il y a plein de dirigeants du CIO qui ont eu des accointances, comme vous dites, c'est le mot est très juste, avec des partis de droite ou d'extrême droite. Ça a été notamment Juan Antonio Samaranch, l'Espagnol, qui a été dans sa jeunesse membre des phalanges franquistes. Aujourd'hui, Thomas Barr, qui est le président du CIO en titre, a parmi ses plus proches amis des oligarques proches de Poutine qui ont notamment contribué à financer certaines activités du CIO. Ça a été prouvé par plusieurs enquêtes journalistiques et je le cite dans mon livre.
Comment ce livre a-t-il été reçu, parce qu'il est publié en France, alors que Paris, célèbre. Il faut le dire quand même, c'est ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Puis j'étais à Paris pendant les préparatifs des Jeux, j'ai quitté juste avant que ça commence. Faut dire qu'il y avait quand même il y avait une espèce de joie. Puis il faut dire aussi que cette cérémonie, elle était formidable. Ça a vraiment donné un exemple de ce que devrait être le mouvement olympique. Je dis bien devrait. Alors, comment votre livre a été reçu? Parce que quand même, c'est une douche d'eau froide un peu sur le mouvement, là.
Alors, non, moi, le livre, j'ai pas voulu que ce soit un livre contre la fête et l'esprit olympique à Paris. Moi-même, je suis très content d'avoir assisté à la cérémonie d'ouverture. J'y vais mercredi pour assister à un certain nombre de compétitions sportives. Je suis très fan des compétitions sportives en général. Et je n'ai absolument rien contre Paris 2024. Ils font bien ce qu'ils veulent. Je ne veux pas gâcher la fête. Mais le livre a été reçu extrêmement bien par la critique, extrêmement bien par les amis, confrères et consoeurs, journalistes à Paris et à l'étranger, et je m'en réjouis. Les Anglais, les Finlandais, les Américains, les Québécois, les Canadiens ont un intérêt aussi pour le sujet, et je m'en réjouis. En revanche, localement, si vous voulez, il est dans le ton, puisque moi je m'attaque à Pierre de Coubertin et pas aux Jeux eux-mêmes. Et Pierre de Coubertin, il n'est pas en odeur de sainteté à Paris. Si vous tapez Pierre de Coubertin sur le moteur de recherche de Paris 2024, vous n'allez rien trouver. Il n'y a aucune occurrence qui sort. Emmanuel Macron a refusé d'honorer Pierre de Coubertin de lui remettre la Légion d'honneur, de le panthéoniser, qui est une des plus hautes distinctions pour des personnalités civiles en France, contrairement à tout un tas de gens, d'écrivains, d'intellectuels, hommes ou femmes, qui ont eu ces honneurs. Le général de Gaulle lui-même, dans les années 60, quand certains proches du CIO, de la famille de Coubertin, ont dit: mais c'est un grand homme, il est connu à l'étranger, c'est un des Français les plus connus, il faudrait le panthéoniser. De Gaulle a eu cette phrase extraordinaire. Il a dit: mais Pierre de Coubertin, ce n'est quand même pas Jean Moulin. Jean Moulin qui incarne la résistance à l'occupant allemand, etc. Et donc, c'est terrible. En France, on a toujours snobé le sport, faut le dire. Pierre de Coubertin, de son vivant, a été totalement ignoré par les élites politiques de son époque. C'est pour ça qu'il en a voulu beaucoup à la France. Il s'est exilé en Suisse et il a apporté le CIO. Et notamment les fameux anneaux. La propriété des anneaux, elle est suisse, elle appartient au CIO. C'est une organisation non gouvernementale, indépendante, qui rend de compte à personne. Et c'est un peu la punition qu'a infligée Coubertin à la France pour ne pas l'avoir reconnue à ce qu'il estimait être sa juste valeur.
Émeric Pantou, c'était tellement agréable de parler de ce livre qui a été une de mes lectures c'est une lecture de vacances, faut le faire. Moi, je lis des choses sérieuses pendant mes vacances, mais vraiment, j'étais agréablement surpris. J'avais des doutes sur Pierre de Coubertin, mais disons que là, vous avez mis les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit au Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je rappelle que Pierre de Coubertin, l'homme qui n'inventa pas les Jeux olympiques, s'est publié aux éditions du Faubourg. C'est disponible ici au Québec en librairie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis, ben, bons Jeux olympiques à vous.
Merci à vous et merci à tous vos auditeurs.
Merci.